Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Et avant de réembrayer sur les débats d'Europe Soir, je vous signale, puisqu'on vient d'en parler, qu'Éric Zemmour sera l'invité du grand rendez-vous Europe 1 demain à 10h. Vous connaissez sa marinière, vous connaissez son franc-parler. Il y a 3 semaines, il se lançait, il se déclarait candidat à la présidentielle. Le voilà qui revient à Frangy-en-Bresse, à la fête de la Rose, avec cette fois-ci un programme. Vous voyez de qui je parle. Arnaud Montebourg est donc réapparu au-dessus d'un pupitre estampillé, la remontada, et voilà ce qu'il dit.
Peuple de gauche, maintenant je m'adresse à toi. Peuple de gauche, toi l'orphelin, toi qui es perdu, toi qui es sans voix, mais qui aussi sans reproche, lève-toi, redresse-toi, donnons-nous la main, avançons ensemble vers la France, retrouvons le chemin du pays pour écrire à nouveau le futur. Prends ton audace à deux mains, peuple de gauche, rejoins-moi. Nous pouvons l'emporter ensemble. Unissons-nous aux Français. Avançons pour faire chuter les fatalités de l'histoire. Et comme le disait Churchill, donnons-lui un coup d'épaule. Vive la remontada de la France. Vive la République. Et vive la France.
Voilà. Arnaud Montebourg en pleine forme à Frangy-en-Bresse, lève-toi et marche, référence biblique, référence churchillienne. Il y a du François Hollande un peu, non, moi président.
Ouais, avec
Xavier Iacovelli, sénateur territorial.
Je ne sais pas s'il y a du François Hollande. Je sais pas s'il y a du François Hollande, mais son slogan c'est la remontada. Mais moi, ce que je vois, c'est que lorsqu'il était ministre de l'industrie et de l'économie, c'était plutôt la descentada, puisque c'était 72 000 postes. Dans l'industrie qui ont été détruits.
Lui dit que c'est une des raisons pour lesquelles il est parti.
Oui, bien sûr. Enfin, c'est toujours facile de partir une fois qu'on a fait le mal, entre guillemets. Quand on voit aujourd'hui, Agnès Pannier-Runacher qui, depuis 2017, a contribué à réindustrialiser le pays avec 70 000 postes à pourvoir. Aujourd'hui, le plan de relance voulu par Emmanuel Macron, c'est 100 milliards, dont une grande partie pour la réindustrialisation et la relocalisation.
Attends, c'est ce que vous dites, il y avait un ministre de l'économie à l'époque. Hein.
Non, mais certes, mais je vous rappelle
vous
quand même qu'il est arrivé après.
Ouais.
Il est arrivé après la descentada, justement.
Ouais.
Et donc, voilà, moi, je pense sincèrement, au-delà du slogan qui nous fait sourire, la remontada, je trouve ça un peu bizarre d'ailleurs pour un candidat à la présidentielle d'utiliser ce terme-là. Moi, je pense que ça peut inquiéter effectivement Anne Hidalgo. Puisque on
ça voit... peut inquiéter Anne Hidalgo.
Bah oui, on le voit d'ailleurs dans le sondage qui est sorti, je crois, aujourd'hui ou hier, où il est, alors tout est relatif, hein, il est à 4,5 et il est à 4. Donc c'est la première fois où là, pour le coup, il y a une remontada, mais sur Anne Hidalgo, en fait.
Marie-Virginie Klein, conseillère en communication chez Tilder.
Bon, alors justement, en regardant les éléments de forme, du coup, je trouve que c'est un peu difficile de prendre au sérieux là ce qu'on a.
On vous a vu sourire dans le studio.
Non, mais alors, d'abord, le slogan remontada, bon, je pense que vraiment ça fait sourire beaucoup de gens. Le sous-titre, hein, c'est bleu, blanc, ruche. Hein, donc,
ruche,
référence à ces ruches. Mais même là, il y a quelque chose d'un peu qui sonne second degré en réalité. Et le « Lève-toi et marche » là qu'on vient d'entendre.
« Lève-toi, peuple de gauche ».
C'est pareil, avec un ton un peu christique, hein, d'ailleurs, qu'il utilise.
C'est gaullinisme.
Je trouve que, d'un point de vue de communicante, hein, moi, que je vois, je trouve que ça ne fait pas très sérieux.
Voilà.
En tout cas, sur ce qu'il a fait et dit aujourd'hui. Donc, moi, je ne tremblerai pas encore à la place d'Anne Hidalgo, mais attendons de voir les prochains sondages.
Christian Proutot.
Ouais, c'est dur à dire, mais je trouve quand même que ça fait un peu sketch, quoi.
Vous alors, êtes d'accord avec votre voisine,
ouais,
pour une fois
et... Non, non, pas pour une fois. Non, mais je trouve ça dommage, parce que je pense que le personnage en lui-même mérite mieux, et je trouve que le langage choisi, la construction me paraît tellement proche du sketch que j'ai du mal à comprendre.
Ça passe ou ça casse, hein.
Moi, je pense que c'est... Par contre, effectivement, par rapport à Anne Hidalgo, effectivement, ça peut passer pour Anne Hidalgo, mais ça n'ira pas beaucoup plus loin.
Oui.
Alexandre Devecchio,
demi-point, quoi.
Du Figaro.
Oui, je pense que là encore, on a la volonté, on voit bien, de gens qui viennent du vieux monde politique. Arnaud Montebourg a fait toute sa carrière au Parti Socialiste, de s'en extraire. et de jouer un peu les populistes. Avec Arnaud Montebourg, une véritable colonne vertébrale idéologique, c'est vrai que même quand il était au Parti Socialiste, il avait inventé le concept de démondialisation, il avait défendu une certaine forme de patriotisme économique, qui pouvait apparaître comme un souverainiste de gauche, une sorte de chevènement. Donc c'est pas tout à fait illégitime, mais on a l'impression quand même que son temps est passé. Il avait réussi à le faire très bien dans le cadre de la primaire en 2000, la première primaire qu'il a,
2011.
Avait fait, en 2011 et ensuite
et 2016. Il en a fait deux.
Il en a fait deux. La première en 2011. Il était le troisième homme à la surprise générale.
Il était troisième homme aussi en 2017.
Oui, mais où, en 2017, il était favori, il avait fini troisième. Donc déjà,
attention, il était... parce qu'on dirait les Bogdanov. Hein, ouais. Qui commence à faire, c'est l'autre qui l'a fini. Hein.
Il était un peu émoussé. Donc oui, c'est très difficile quand on a appartenu au monde politique de se réinventer. Et je crois que là, c'est l'échec d'Arnaud Montebourg à se réinventer. Et du coup, ça apparaît comme une espèce d'absence de maîtrise finalement.
Oui. Marie-Virginie Klein.
Je trouve qu'il essaye de capitaliser sur le fait qu'on a l'impression qu'Anne Hidalgo n'imprime pas. Et c'est pour ça qu'il joue là-dessus. Pour le coup. Alors moi, je vais proposer une lecture qui va, je pense, me valoir peut-être quelques ennemis, mais je pose la question parce qu'avec tout ce qu'on vient de se dire ce soir, on a d'un côté Valérie Pécresse qui fait une audience très faible. On a, suite à ça, un Éric Zemmour qui se lance contre Marine Le Pen. Et on a un Arnaud Montebourg aujourd'hui qui se lance contre Anne Hidalgo. Je pose la question, mais est-ce que c'est les femmes qui n'impriment pas dans cette campagne électorale? Parce qu'à chaque fois, quelqu'un essaye de se mettre soit de se construire en faux. Mais est-ce que la façon féminine de faire de la politique ne fonctionne pas? Je le dis parce que là, on a quand même trois cas, les trois candidates.
Rousseau qui sera candidate.
Alors voilà, on aura l'exception Rousseau, mais alors là, c'est plutôt la prime à la nouveauté, j'ai l'impression. Donc est-ce que les trois cas,
hein, ce qu'on a vu, cas fortuit,
Valérie Pécresse, là, pour le coup. Anne Hidalgo, Marine Le Pen, les trois. Visiblement, on n'imprime pas ou ne suscite pas vraiment d'entrain. Ou est-ce que c'est parce que c'est des personnages qu'on voit depuis longtemps dans le paysage médiatique et qui rejoindraient notre sujet précédent de se dire que c'est la prime à la nouveauté qui, définitivement, est là un peu.
Alors,
aussi pour Arnaud Montebourg.
On va réécouter Arnaud Montebourg et voilà ce qu'il propose.
Imaginez des solutions réalisables, exclusivement réalisables, car l'espoir, quand il est frelaté, c'est le pire, c'est celui que nous paierons au centuple lorsqu'il n'aura pas été réalisé. Des solutions réalisables dans la fidélité à nos valeurs.
Voilà. Alors ça, évidemment, ça fait suite à cette phrase qui a été tweetée, retweetée aujourd'hui sur le fait que les candidats à une présidentielle, généralement, c'est comme la haute du Père Noël et qu'à la fin, finalement, tout ce qui est prévu n'est pas tenu. Alors, je vous donne quand même les propositions d'Arnaud Montebourg puisqu'elles étaient derrière lui, hein, sur ce grand mur. Hausse des salaires, retour à la terre, Made in France XXL, fin du pétrole, nationalisation des autoroutes, souveraineté du pays et... sévérité républicaine. C'est quoi sévérité républicaine? Christian Proutot, c'est quoi la sévérité républicaine?
La sévérité républicaine, c'est justement pour dire que l'on applique les lois et que...
C'est l'ordre juste,
voilà,
de Ségolène.
Oui, parce que la sévérité, elle pourrait apparaître comme étant quelque chose qui va à l'encontre des libertés. Mais si on rajoute républicain, on donne le sentiment, malgré tout, de rester... on sera ferme, mais dans la... la force injuste de la loi. Quoi, voilà.
Qu'est-ce qu'on peut penser de cette to-do list, j'allais dire, presque, Xavier Covalli?
Moi, j'ai coché, je suis d'accord avec la nationalisation des autoroutes.
Pourquoi?
Parce que moi, je pense que c'est une hérésie d'avoir délégué au privé les autoroutes.
Vous ne l'avez pas fait?
Jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas ni président de la République, ni membre du gouvernement. Et donc moi je
vous
porte
êtes
en
membre
tout cas
de
je...
la majorité.
Oui, mais enfin je suis un des membres de la majorité. Je vous rappelle qu'on est nombreux dans cette majorité.
Écoutez,
et donc en l'occurrence moi je suis
sur sa majorité. Que voulez-vous?
Vous me demandez mon avis.
Le nombre fait
vous me demandez mon avis par rapport à la to-do list d'Arnaud Montebourg. Bon, s'il y a une proposition sur laquelle je suis d'accord, c'est effectivement
la nationalisation
des autoroutes.
Hausse des salaires, d'accord, pas d'accord.
Oui, mais enfin c'est déjà le cas proportionnellement, on est en train de le faire déjà.
D'accord, retour à la terre.
C'est-à-dire autour de la Terre.
Bah alors là, c'est pareil. Madame la communicante, on a besoin d'une explication de texte. C'est quoi? C'est l'agriculture.
Oui, tout c'est ça est un peu abstrait quand même. Tout ça, c'est beaucoup de formules, et il y a peu d'explications derrière. Donc, je pense que même lui, il sait très bien ce qu'il veut dire, mais je pense qu'il faudrait qu'il l'explicite un peu plus. Peut-être parce que sévérité républicaine.
Non, moi, je pense que ça veut donner une idée écologique au programme en disant fini la culture extensive. Et surtout intensive. Et puis, on va refaire des petites fermes, j'en sais rien.
Ce qui est pratique, c'est que chacun peut y voir chacun ce qu'il veut.
Je pense qu'il y a quand même une idée chez Arnaud Montebourg de protectionnisme. C'est le premier à l'avoir défendu avec la démondialisation. Et on peut imaginer qu'il défende des circuits courts, relocaliser un certain nombre de productions, alors sur le plan industriel, mais aussi sur le plan agricole. Je pense qu'on peut mettre ça derrière cette formule qui effectivement est floue, et c'est peut-être d'ailleurs sa cohérence. On voit qu'il est, moi je trouve qu'il est assez dans l'air du temps. On est quand même sorti du logiciel dominant qui était un logiciel libéral, européen. On voit bien que tous les candidats, même ceux qui viennent des vieux partis politiques, essayent ont compris que la mondialisation avait créé un certain nombre de dommages et essayent de proposer
la
souveraineté du pays. C'est quelque chose qu'il défend depuis longtemps. Mais comme il vient lui-même effectivement des vieux appareils, j'ai peur qu'il soit inaudible et que d'autres qui ont enfourché ce créneau soient plus en avance que lui là-dessus maintenant désormais.
Jusqu'à quel point il peut être l'anti-Hidalgo?
Moi, je pense qu'ils ont une base électorale très très faible en réalité. Peut-être pas tout à fait la même. Anne Hidalgo, pour le coup, est une candidate de la gauche sociétale qui séduit plutôt les centres-villes avec un programme pas spécialement, j'allais dire pas spécialement écolo, aussi écolo, mais l'écolo gadget, le vélo, les trottinettes. Enfin, je caricature un peu, mais elle s'adresse aux centres-villes en réalité. Arnaud Montebourg essaie de s'adresser aux classes populaires, ce qui est louable pour un homme de gauche qui aurait dû être le rôle du Parti Socialiste, mais qui en a été très très loin ces dernières années. Donc finalement, il essaie de revenir à ce qui devrait être la base du socialisme, s'adresser à l'électorat populaire, mais j'ai peur que cet électorat soit parti vers d'autres rives, soit s'abstienne, soit vers Marine Le Pen, soit peut-être vers Éric Zemmour.
Voilà ce que dit l'un de ses conseillers dans ce meeting de Frangy. Il s'adresse aux travailleurs dont la gauche s'est détournée, aux mères seules, aux jeunes CDD, ou encore aux nouveaux esclaves de Uber, de Deliveroo, et aux fonctionnaires dont les salaires stagnent. Son objectif est de récompenser la gauche qui parle à la France et aux Français.
Ouais, c'est un peu ce que je disais, revenir aux classes populaires, parce qu'en réalité, le Parti Socialiste, et alors singulièrement Anne Hidalgo, qui est quand même à la tête de la ville la plus riche de France, qui est paradoxal pour une socialiste, ce sont adressé ces dernières années, ça avait été théorisé même par François Hollande, par l'équipe autour de François Hollande avec la fameuse note Terra Nova, il fallait s'adresser aux jeunes, aux habitants des centres-villes
et lâcher
les classes populaires. Donc c'est une lente évolution dont Anne Hidalgo est la caricature, et finalement elle a une base électorale très restreinte parce que les classes populaires restent finalement en nombre les plus importantes. Et donc Montebourg, à mon avis, voilà, ça s'adresse pas tout à fait à la même gauche. Maintenant, les classes populaires, je ne suis pas sûr qu'elles se reconnaissent en Arnaud Montebourg, ancien ministre socialiste. En plus, il a une image qui ne correspond pas à son programme, injuste. Hein, les gens le voient comme quelqu'un d'un peu snob. Vous vous souvenez, on l'appelait Arnaud de Montebourg. Donc, pas sûr que ça fonctionne, mais l'effort est loin.
Ça voudrait dire que je suis snob, c'est ça. Merci, Alexandre Devecchio. Xavier De Iacomelli.
Non, mais je pense effectivement qu'Arnaud Montebourg a flairé aussi ce qui se passe au PS. C'est-à-dire que le PS, aujourd'hui, est dans un rapport de faiblesse avec Europe Écologie Les Verts. Le PS incarnait ce grand parti du progrès, des avancées sociales, sociétales, qui n'arrive plus à incarner depuis quelques temps maintenant. Et on est plutôt maintenant dans une gauche piste cyclable, plutôt que dans une gauche de progrès. Et je pense que Arnaud Montebourg essaie justement de capter cet électorat populaire, socialiste, qui ne se reconnaît pas forcément dans un effacement du socialisme derrière les écologistes. C'est un créneau, mais encore une fois, je ne vois pas non plus son espace, parce que les classes populaires, Mélenchon va essayer aussi de les capter avec de l'autre côté l'autre pendant, c'est-à-dire Marine Le Pen, qui restera encore sur cet axe important.
Mais le populisme est vraiment l'avenir de la politique. Et quand je dis le populisme, moi, c'est pas forcément négatif, mais en tout cas, cette quête d'aller chercher le peuple, d'ailleurs directement, sans passer par les corps intermédiaires, sans passer par les vieux appareils, je pense qu'aujourd'hui, c'est inévitable quand on veut faire de la politique. Et on voit que tous, y compris encore une fois ceux qui apparaissaient comme les plus classiques, ils sont contraints.
Vous voulez dire qu'il y aura un populisme light et un populisme XXL?
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron est un populiste light, un populiste des élites, comme disait à la main, parce qu'il s'adresse à des catégories CSP+, mais lui-même avait voulu dépasser le clivage droite-gauche, était extrait du Parti Socialiste, avait été le premier à utiliser les réseaux sociaux. On disait qu'il avait ubérisé la politique à l'époque. Donc c'est un
populisme. Si je vous suis bien, en fait, le populisme tel qu'on le concevait il y a quelques années n'est plus du tout le même aujourd'hui.
Non, après le populisme, c'est un mot qui a souvent été, il y a quelques années, on l'employait tout simplement pour disqualifier l'adversaire. C'était une manière de disqualifier l'adversaire. Voilà. Moi, je crois que le populisme, c'est de vouloir s'adresser au peuple. C'est un rapport direct entre un leader et un peuple. Oui. C'est l'idée d'un franc-parler, d'une rupture avec le politiquement correct. Et chacun des candidats, chacun à leur manière, essaye finalement d'incarner cela dans un grand vent de dégagisme, ce qui a été décrit avec une prime à la nouveauté.
Christian Proutot, tout à l'heure, il y a juste quelques secondes, Xavier Iacovelli parlait de la gauche de progrès. Finalement, depuis François Mitterrand, il y a eu une gauche de progrès ou il n'y en a pas eu? Enfin, j'y pense parce qu'en plus, Paul Quillès nous a quittés hier ou avant-hier. L'élection de Mitterrand en 81. C'est un programme qui est totalement disruptif d'ailleurs par rapport à ce qui a été connu avant. Et derrière, en fait, y a-t-il eu une gauche de progrès, selon vous, vous qui avez connu différentes décennies ?
Moi, j'étais haut fonctionnaire, j'ai toujours regardé la politique en observateur et j'ai participé à une mission auprès de l'État. Voilà. Mais cela dit, ça n'empêche pas d'avoir
un œil vif.
Je ne sais pas, j'essaye au moins... De me faire à l'expérience, 13 ans auprès d'un président de la République, ça laisse des traces. Donc, de se dire, qu'est-ce qui s'est passé? Mitterrand, il est arrivé à un moment où il fallait que ça bascule. Il a été l'homme providentiel pour que ça bascule. Il l'a fait. Il a mis en place un certain nombre de mesures, on ne va pas revenir là-dessus, mais qui avaient, à ce moment-là, du sens. Depuis, j'ai l'impression que quelqu'un fédérateur comme il l'a été, comme l'ont été d'autres personnalités, deux personnalités au moins pour la droite, il n'y en a pas eu au Parti Socialiste. Je pense qu'il n'y en a pas eu vraiment. Et ça a été le problème du Parti Socialiste parce que après Mitterrand, il n'y a pas eu grand-chose. Moi, c'est le sentiment tel que
je Jospin vois. Un peu, je pense que Jospin pouvait incarner ce rassemblement.
Xavier Iacovelli.
Je pense que Jospin pouvait incarner justement le rassemblement et la continuité peut-être du mitterrandisme.
Mais peut-être pas la personnalité.
Mais la personnalité peut-être un peu trop... on va dire froide ou mais je pense qu'il il incarnait
on
quand même
de stature tout à l'heure.
Oui, c'est ça, une question de stature, mais c'est vrai que aujourd'hui entre une gauche indigéniste et une gauche qui ne parle plus du tout à sa base électorale et notamment le PS, c'est vrai que on a besoin, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est plusieurs à avoir quitté le Parti Socialiste en 2017, puis jusqu'en 2019, on est nombreux à avoir quitté le Parti Socialiste parce qu'on voulait incarner cette gauche réformiste, cette gauche pro-européenne, et on s'est retrouvé aussi dans cette gauche du réel, cette gauche du gouvernement, on s'est retrouvé dans Territoire de Progrès. Pourquoi ? Parce qu'on estimait que notre place était dans le gouvernement autour d'Emmanuel Macron pour réformer le pays et avec des mesures sociales et sociétales qui étaient aussi importantes.
Emmanuel Macron a besoin de cette gauche-là qui est Territoire de Progrès.
Mais Emmanuel Macron, son objectif, c'est de rassembler ceux qui sont de gauche et de droite. Il n'est pas anti-gauche, anti-droite, il rassemble tout le monde. Et c'est pour ça que nous, on a souhaité nous structurer autour d'Emmanuel Macron, parce qu'encore une fois, le Parti Socialiste, moi je vous le dis comme je pense, le Parti Socialiste aurait dû être un parti de la majorité présidentielle.
En fait,
le Parti Socialiste n'a jamais assumé le fait que c'était un parti social-démocrate. C'était un gros mot quand on était au Parti Socialiste, de dire qu'on était de sociaux-démocrates. Je me rappelle de Strauss-Kahn qui se faisait huer quand il disait qu'il était un social-démocrate. Sauf qu'aujourd'hui, autour d'Olivier Dussopt, d'Emmanuel Wargon et de Le Drian, aujourd'hui, on incarne cette social-démocratie au sein de Territoire de Progrès, mais derrière le président de la République.
À vous entendre, on croirait que le Parti Socialiste vit presque plus par Territoire de Progrès et par Emmanuel Macron que par le Parti Socialiste lui-même.
Ah mais aujourd'hui, clairement, aujourd'hui...
Vous en êtes convaincu.
Mais moi j'en suis convaincu et je pense que ce mouvement va encore continuer. Des gens comme François Rebsamen, des gens comme Stéphane Le Foll, comme Hélène Geoffroy, même Johanna Roland, toutes ces personnalités oui. socialistes d'une gauche du réel,
bien.
C'est des gens qui vont au bout d'un moment se rendre compte que la gauche qu'ils ont connue, la gauche qu'on a connue au sein du Parti Socialiste, celle qui était aux responsabilités, qui n'était pas dans une opposition systématique, elle n'est plus incarnée par le Parti Socialiste.
Oui, mais c'est la même chose
Christian
pour la
Couteau.
Droite.
Oui, tout à fait.
Voilà, je pense que c'est la même chose pour la droite. Et pour revenir à l'objet de la discussion,
oui.
Montebourg, il commence son discours en appelant peuple de gauche. Donc on voit bien déjà qu'il réduit sa marge de manœuvre. Contrairement à tout ce que l'on a dit tout à l'heure, où les autres veulent prendre un peu d'un côté et un peu de l'autre. Et lui, en dehors de l'accent, puisqu'on l'évoquait en début de notre discussion, l'accent qu'il veut martial, même s'il il le donne au moins dans le ton, mais il a annoncé la couleur, et là je pense que tout de suite, pour lui, c'est réducteur. Hein.
Marie-Virginie Klein, par rapport à ce qu'a dit Alexandre Devecchio tout à l'heure sur le populisme, ça vous effraie qu'aujourd'hui on ait ce nouveau concept, j'allais dire, ou spectre qui fait que bah il y a du populisme, il y a un pourcentage de populisme à peu près dans chaque parti.
Mais en fait, ce qu'on constate quand même entre ce qu'on a dit tout à l'heure sur le Parti des Républicains et sur le PS, c'est quand même que ces deux partis sont peut-être pas morts complètement, mais cherchent à ressusciter. Même cette phrase « lève-toi et marche », c'est comme si ce parti était à genoux et qu'il fallait qu'il se relève. Donc si Emmanuel Macron a réussi quelque chose, c'est bien de détruire ces deux partis. Donc est-ce que ça doit être remplacé par un populisme ? Peut-être. Dans le cas d'Arnaud Montebourg, je trouve qu'il n'incarne pas du tout le populisme et qu'il y a un écart très fort entre ce qu'il dit et ce qu'il est, quoi. Entre les mots qu'il utilise, le vocabulaire même qu'il utilise, c'est-à-dire que même son conseiller parle, je parle aux victimes de l'ubérisation, pardon, mais l'ubérisation, c'est un concept né il y a quelques années, mais que je pense que tout le monde ne maîtrise pas encore parfaitement. Donc il a un body language qui va contre... Il ne peut pas incarner le populisme parce qu'il dit, parce qu'il fait, et puis parce qu'il était
body
aussi... Souvenons-nous quand
corps,
même...
Langage du corps,
bah,
ça
vous... Oui, son langage du corps, sa façon de s'habiller, son élocution. Il, a
bon,
une
il
élocution.
Avait une chemise et un pantalon, qu'est-ce que vous voulez qu'il
oui,
mette
son élocution, son élocution. Parce que là, on l'a entendu, on ne l'a pas vu. Et puis,
il
n'y
avait pas de marinière aujourd'hui, alors qu'il y avait genre à peu près 1200 marinières derrière
il
lui.
Il est quand même un peu gauche people... gauche people, gauche caviar. Hein. Donc, moi,
C'est l'image qu'il a, même s'il a défendu des positions hautes. Mais je suis d'accord que c'est l'image qu'il a. Mais après, il faut retenir les positions hautes. Et je crois qu'il n'arrive pas à se défaire du fait qu'il a appartenu au gouvernement de François Hollande. Là, vous avez raison.
Alexandre Devecchio du Figaro est avec nous, le fondateur du GIGN, Christian Proto, Xavier Iacovelli, sénateur territoire de Progrès des Hauts-de-Seine, et Marie-Virginie Klein, communicante directeur général directrice générale du cabinet Tilder. Dans un instant, faut-il arrêter d'envoyer des soldats français en OPEX? Le caporal-chef Maxime Blasco, mort sous les balles des terroristes au Mali, n'est-ce pas le soldat mort de trop? Tout de suite.
Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.
Dernière partie des débats d'Europe Soir avec Marie-Virginie Klein, communicante directrice générale de Tilder, Xavier Iacovelli, sénateur territoire de Progrès des Hauts-de-France, le fondateur du GIGN Christian Proto et mon confrère du Figaro Alexandre Devecchio. Il devait prochainement fêter son 35e anniversaire. Le caporal-chef Maxime Blasco est mort au Mali en pleine opération, touché à la tête par les balles des terroristes. Il est le 52e soldat français à mourir sur ce théâtre d'opération depuis que les forces militaires françaises sont sur place depuis 2013. Il est très vraisemblable, selon nos informations, qu'il reçoive un hommage national aux Invalides dans les jours prochains. Mais so what, diront certains, ça ne le ramènera pas à la vie. Faut-il arrêter le massacre? Faut-il stopper la force Barkhane au Mali? Partir comme les Américains sont partis d'Afghanistan? En tout cas, pour faire le point ce matin sur Europe 1 et sur CNews, le chef d'état-major de la Marine nationale nous brosse le portrait de ce que représente le remaniement militaire opéré dernièrement sur place au Mali.
Actuellement, le dispositif est en train d'être réarticulé, c'est le langage militaire, c'est-à-dire qu'on change la nature de notre présence. C'est-à-dire qu'actuellement, c'était des grandes opérations de ratissage et de contre-terrorisme, et le dispositif va évoluer vers une présence plus forte à côté des troupes africaines, pour les former, pour les entraîner vers le combat.
Voilà, l'amiral Vendier, chef d'état-major de la Varine, invité ce matin de Jean-Pierre Alcabache. Pour autant, Christian Proto, doit-on tout arrêter?
Ah non, moi je ne pense pas. On ne peut pas d'un côté dire il faut en amont anticiper sur ce que pourraient faire des groupes qui sont soit sous-tendus par Al-Qaïda, soit sous-tendus par, par Daesh, et se désengager. On sait très bien qu'après, ces pays vont se retrouver, on l'a vu d'ailleurs avec un certain nombre d'opérations terribles sur les populations, ces pays qui n'ont pas l'outil qui est important, parce qu'à un moment, il faut faire le combat sur le terrain. Le combat, il ne peut pas être que du renseignement. Il faut exploiter ce renseignement. Et exploiter ce renseignement, et malheureusement, c'est douloureux, on le voit parce qu'on a encore perdu un homme, ça fait 52 hommes, mais il faut savoir que si on mène un combat, ce combat a un prix, et il faut l'accepter. Sinon, après, il ne faudra pas s'étonner de ce qui se passera. Il ne faudra pas dire, mais pourquoi on a laissé faire ça? Alors, il n'y a pas de discours à tenir. C'est vrai qu'on peut rééquilibrer nos forces sur le soutien des forces africaines pour qu'elles aient les... disons, elles soient plus en capacité de riposter face à
plus ces... des formateurs que des soldats eux-mêmes. Voilà. Ouais.
Mais il ne faut pas se voiler la face. À un moment, il faut aller sur le terrain et si on prend des risques, on risque de perdre des hommes.
Xavier Iacovelli.
Oui, Florence Parly, la ministre des Armées, l'a dit, on va adapter notre présence, mais on ne va pas quitter le Sahel. Et elle le disait d'ailleurs avant le meurtre de notre soldat, à qui je rends hommage ce soir. Mais la réalité, c'est que ces soldats-là, qui sont au Sahel, ont permis aussi d'échapper à un certain nombre de massacres. Je vous rappelle quand même que Daesh au Sahel, c'est plus de 3000 civils qui ont été massacrés. C'est aussi des attentats qui ont été déjoués grâce à nos forces armées. C'est aussi des pays et des coups d'État qui ont été évités grâce aux forces de Barkhane. Donc tout ça, si vous voulez, il faut aussi... Les soldats savent qu'ils prennent des risques, c'est leur métier, ils s'engagent, c'est malheureux. Moi, je veux vraiment leur rendre hommage ce soir parce que c'est vraiment un métier qui nous oblige et c'est, qui aujourd'hui pousse les Français aussi à avoir un regard bienveillant sur notre armée. Et je pense que c'est un des corps de la fonction publique qui est le plus apprécié par les Français parce qu'on sait les risques qu'ils prennent pour notre liberté. Parce qu'encore une fois, quand on intervient avec les forces Barkhane dans le Sahel, c'est aussi pour notre liberté, c'est pour éviter que des groupes terroristes ne se forment. Le fait qu'on ait tué le 15 août, je crois, oui, le chef, le numéro 1 de ce groupe Daesh au Sahel, après 18 mois de renseignement, vous parliez tout à l'heure de ce proto du renseignement qui est nécessaire, mais c'est aussi parce qu'on a eu du renseignement pendant 18 mois qu'on a pu cibler les différentes caches de ce numéro 1. Et effectivement, Daesh a été, on va dire, décapité de sa tête au niveau du Sahel, ce qui n'a pas empêché effectivement ces groupes armés de tuer un soldat. Mais encore une fois, notre présence, elle est importante et aussi pour la sécurité des Français en métropole.
Alexandre Devecchio, important pour la sécurité des Français, ce que dit Xavier Iacovelli.
Non, je crois que ces dernières années, la politique étrangère qui a été menée, plus atlantiste, je dirais, que les atlantistes eux-mêmes, a surtout ajouté peut-être du chaos au chaos. Maintenant que le chaos est là, c'est très difficile de repartir. Mais je pense qu'il y a un certain nombre de guerres qui ont été menées depuis la guerre d'Afghanistan, qui était peut-être la plus légitime, parce qu'elle faisait suite au 11 septembre. Ensuite, ouais, on a eu la guerre en Irak, on a eu la guerre en Libye. On intervient désormais au Sahel. À chaque fois, ça se solde toujours par des catastrophes, plus de terrorisme. Donc, je pense qu'il faut rompre avec cette interventionnisme.
Partir comme Joe Biden est parti d'Afghanistan.
Si on peut essayer de ne pas partir comme Joe Biden parce qu'il est mal parti. Mais en tout cas.
Enfin, il a été critiqué, mais il assume. Et il a écouté son électeur.
Le problème, c'est que l'Amérique nous a quand même mis, pardonnez-moi, dans ce chaos, d'une certaine manière. Et c'est nous qui allons en recevoir les conséquences directes, puisque l'Amérique est loin, finalement, du terrorisme. Maintenant qu'on y est, c'est vrai que je m'interroge, c'est très difficile de partir.
Mais les États-Unis, justement, en partant, ont pris ce postulat de ne plus être le gendarme du monde.
Non, ils ont changé de... Leur ennemi direct, c'est la Chine.
C'est la
menace géopolitique aujourd'hui. Pour les États-Unis, principal, c'est la Chine. Nous, il faudrait qu'on s'inquiète sans doute de la Chine, mais on est plus directement face à la menace islamiste et terroriste. Donc, je ne sais pas s'il faut partir. je pense qu'il fallait pas y aller. Alors rétrospectivement, c'est plus facile à dire. Et là, je m'interroge, est-ce qu'on peut partir une fois qu'on est dans une telle situation de chaos ? Mais en tout cas, il faut en tirer des leçons pour l'avenir. Et je crois que le droit d'ingérence se solde à chaque fois par des catastrophes.
Marie-Virginie Klein.
Moi, de mon point de vue, je vais plus raisonner en quel serait le message envoyé, en fait, si on se retirait de ce lieu-là. Les soldats français, ils payent de leur vie la défense d'un certain nombre de valeurs. Et on ne peut pas envoyer une armée et dire « bon, il y a zéro risque ». Mais les Américains qui se sont retirés d'Afghanistan et qui laissent un peu les choses se régler derrière eux, c'est-à-dire que si en France on faisait la même chose, ça voudrait dire que ces valeurs-là, ces sujets-là, ben on s'en détache un peu, alors même qu'on voit que c'est, d'ailleurs on en a parlé tout à l'heure, c'est un des sujets de préoccupation majeure des Français. Quoi.
La sécurité, oui. Christian Proutot.
Oui, je reviens sur l'idée de se dire, c'est pas la même chose que qu'on a dit au départ, on a parlé des Américains.
C'est pour ça que je demandais si le parallèle américain était,
Il n'est pas bon parce que c'était face à des États. C'est la, pour ne pas dire autre chose, la bêtise que l'on a faite avec la Libye. Donc, on n'aurait pas dû déstabiliser un État. Là, c'est des
États. C'est la demande des États. Au Sahel, c'est la demande des États. On va aider les États.
Il y a une armée qui est inter-pays que l'on soutient face à une menace qui s'attaque indifféremment à l'un ou à l'autre des pays, même si c'est le Mali qui est le plus visé, en l'occurrence. Mais toute cette vaste zone, il n'y a que les moyens que nous avons qui peuvent permettre d'aider ces pays au niveau stratégique. Ce n'est pas possible autrement.
C'est à la demande des pays, Xavier Iacovelli, mais Alexandre Devecchio, si je comprends bien, il faudrait dire non. C'est-à-dire que le pays demande et on dit bah non.
On peut mener des opérations ponctuelles contre des groupes djihadistes, mais s'installer dans le pays, essayer de rebâtir l'état du pays à leur place, je pense que ce n'est pas...
Comment
C'est pas du tout ce qu'on fait. Là, on est vraiment en soutien. Le G5 Sahel, qui a été créé.
Non, mais
le G5 Sahel qui a été créé à l'initiative de la France d'ailleurs pour réunir les 5 pays du Sahel et pour lutter contre la menace terroriste. C'était une armée commune. Moi, je suis président du groupe d'amitié France-Mauritanie qui en fait partie et je peux vous dire que la présence française est très appréciée et très demandée, et d'ailleurs est la plus importante sur le G5 Sahel, malgré qu'on ait d'autres alliés. Mais aujourd'hui, la volonté aussi, c'est petit à petit, de pouvoir, à ce que ce soit les forces africaines qui puissent prendre plus en plus de poids.
Ça fait 8 ans qu'on est là. Ça fait 8 ans qu'on est là. On voit que les forces africaines ne prennent pas plus de poids.
Ce que je crains,
c'est que vous le vouliez ou non, nous soyons perçus par une partie de la population comme une force d'occupation et que nous faisions d'une certaine manière le jeu des terroristes, puisque face à une force d'occupation illégitime dans une situation économique, sociale, catastrophique, les gens une partie de la population se tourne vers les terroristes et on leur donne aussi un prétexte pour nous attaquer chez nous, même si je pense que ça se résume pas à ça le terrorisme chez nous, mais c'est aussi un ressort pour les terroristes de dire, voyez, l'Occident fait du néocolonialisme, vient chez nous et donc on est légitime à contre-attaquer.
Non mais vous savez, je pense que la population, et je parle pas des États là, les États j'ai dit effectivement c'était la demande des États, mais la population, quand ils voient que 3000 de leurs compatriotes ont été massacrés par les terroristes de Daesh, quand ils voient que leurs filles sont enlevées en masse dans les écoles pour en faire des esclaves sexuels et être mariés aux terroristes de Daesh, je ne suis pas sûr sincèrement qu'ils reprochent à la France de pouvoir protéger les villes et les villages du Sahel. Donc sincèrement, moi je vous invite à aller voir sur le terrain. Moi, j'ai pu le voir sur le terrain ce qui se passait et la présence française est très appréciée.
Vous avez été au Sahel, vous avez été au Mali.
J'étais en Mauritanie.
En Mauritanie,
exactement. On a été au siège du G5 Sahel qui se trouve en Mauritanie.
Et alors, vous avez donc rencontré les soldats français et aussi les formateurs qui ensuite forment les soldats africains.
Voilà, il y a en fait dans le G5 Sahel, il y a donc les différents pays africains qui sont qui sont membres et qui, donc il y a différents gradés, je ne me rappelle plus exactement les grades, mais enfin il y a différents gradés qui gèrent et qui tournent au fur et à mesure. Et donc c'est une présidence tournante, on va dire, au niveau de la direction de cette armée commune. Et c'est vrai que la France est là en soutien logistique, mais aussi en soutien aussi de formation. Et ça, c'est très important pour avoir... encore une fois, pour que les forces africaines puissent prendre le relais.
Christian Proto, cette formation, elle marche à 100%?
Elle marche à 80%.
Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans les 20%? Qu'est-ce qui ne marche pas?
Mais dans les 20%, ce qui ne marche pas, c'est que y a, derrière, ça a du mal à suivre. Vous formez les gens, et ensuite, il faut pouvoir être présent pour pouvoir maintenir cette formation et faire en sorte que... Parce qu'il y a un déficit d'expérience dans ces armées qui sont pour la plupart du temps, sous-équipés, mal équipés.
Mais l'équipement n'est pas fourni par la France, du coup?
Ah ben, si, la France fournit une partie
d'équipement, un
minimum d'équipement. Mais ça part de loin. Hein. Alors, c'est vrai qu'ils ont eu des sacrés succès, faut le dire. Cette force a eu des succès réels. Et si on veut continuer à avoir ce type de résultat, il faut être présent parce qu'ils ont besoin de ce soutien tactique et de ce soutien de formateurs. Et nous, à contrario, si on ne veut pas que la présence que nous avons, qui est aussi une présence sur l'Afrique, qui est là de longue date, qui est une présence à la fois économique et d'intérêt aussi, il faut que cette déstabilisation nous permettent de rester et non pas qu'on se retrouve avec des prises d'otages, avec des mouvements qui font que tout d'un coup, on est obligé de faire une politique qui finit par enrichir ce que l'on combat. Alors, et tout ça ne peut exister que si on arrive à mettre fin, et ce qui n'a rien de comparable, je voudrais le rappeler, avec l'Afghanistan. Ce n'est pas du tout le même type de combat.
Quel est l'état d'esprit des soldats maliens? Parce qu'on se retrouve quand même dans un pays... en guerre, en tout cas, qu'il y a des factions les unes contre les autres. Et on est aussi face à un autre problème, ou en tout cas à un autre constat, qui est celui que les soldats français, que je connais, que vous connaissez aussi Xavier Iacovelli, quand on va à l'école navale ou dans les écoles militaires différentes, on sent qu'il y a une vocation. C'est-à-dire que les jeunes soldats français... Et comme le caporal-chef Maxime Blasco, il savait qu'il voulait faire ça dans la vie au nom des valeurs qui sont les valeurs des soldats. Est-ce qu'il y a la même chose, le même ADN du soldat chez les soldats maliens, conforme?
C'est pas aussi simple que ça. Il y a cet ADN parce que à certains moments, parce qu'effectivement leurs proches sont touchés. Il faut voir, vous le rappeliez fort justement, le prix qu'ont payé les populations locales face à cette force sanguinaire, parce qu'ils sont sanguinaires, il faut rappeler les choses. C'est des massacres, c'est des vols, des viols, des pillages, c'est VVP. Hein. Alors, là, à ce moment-là, je pense qu'effectivement, ceux-là, ceux qui sont en bordure, en lisière de toute cette zone, qui, lorsqu'elle n'est pas sous contrôle, est sous le contrôle du plus fort, c'est-à-dire... l'occupant de Daesh.
Donc il y a aussi un esprit de vengeance chez ces soldats maliens qu'il faut, j'imagine, d'une certaine manière canaliser. Parce qu'être soldat, ce n'est pas se venger.
On ne peut pas laisser mettre en place un problème, une vengeance qui serait...
Parce qu'après, c'est conflit sur conflit.
Voilà. Sinon, ça enchaîne sur le conflit autre chose que l'idéologie que veut mettre en place Daesh là-bas.
Voilà. Parce qu'elle veut monter les gens les uns contre les autres, justement.
Absolument.
Ouais. Ouais. Xavier Iacovelli, là-dessus, justement.
Non, moi, j'ai pas rencontré des soldats maliens, pour le coup, parce que j'étais en Mauritanie, mais
vous allez y retourner, s'il vous plaît, puis comme ça, vous allez vous en parler.
Non, mais effectivement, je suis d'accord avec vous. Quand on a vu... Il y a peut-être un esprit de revanche, mais c'est justement c'est là où la formation est importante. Et c'est là où les forces françaises, qui sont là-bas aussi pour former et accompagner les forces africaines, sont très importantes, justement, pour canaliser cet esprit de revanche, parce qu'ils ont eu effectivement des proches massacrés, tués, violés, enlevés, mais aussi cette nécessité d'accompagner les pays du Sahel pour avoir une vraie armée, pour pouvoir se protéger sans avoir besoin du recours de la France ou d'autres pays occidentaux.
Alexandre Devecchio, le problème dans tout ça, c'est qu'on n'en voit pas la fin.
Oui, c'est ça. Je disais, ça fait 8 ans et on n'en voit pas la fin et on ne voit pas forcément de progrès. On a l'impression que la situation peut-être s'aggrave. Donc moi, je n'ai pas de solution. Encore une fois qu'on est sur place, c'est difficile de partir. Mais je reste très sceptique. Alors certes, ce n'est pas la même chose qu'en Afghanistan. Certes, on n'a pas détruit des États, ce qu'on a quand même fait effectivement en Afghanistan, en Libye et en Irak. Mais est-ce que quand on reste trop longtemps, on n'est pas perçu encore une fois comme une force néocoloniale? Moi, je me pose la question.
Vous vous posez la question et en tout cas, donc, selon nos informations, un hommage va être rendu au caporal-chef Maxime Blasco dans les prochains jours. C'est devenu incessant, enfin, c'est-à-dire c'est devenu vraiment une habitude triste, ces hommages les uns après les autres. Et en même temps, j'utilise le « en même temps », et en même temps, bah, on a envie de lui rendre hommage à ce soldat, Marie-Virginie Klein.
Moi, je pense que ces hommages, ils sont extrêmement importants à deux titres. D'abord parce que c'est des héros de la nation et qu'il faut les remercier publiquement. Et aussi, un deuxième titre, c'est que ça nous rappelle à nous qui sommes très éloignés de ces zones-là, qui ne nous intéressons d'ailleurs pas beaucoup, il faut le dire, à ces sujets, qu'il y a des valeurs et il y a des idées qu'on défend à l'autre bout du monde et auxquelles on tient tous.
Et justement, pour rendre hommage encore ce soir à Maxime Blasco, rappelons qu'en 2019, il avait tout seul sauvé la vie de deux de ses camarades blessés dans le crash de leur hélicoptère après les avoir extraits de la gazelle qui venait de toucher le sol. Le soldat les a portés avant de les fixer à un autre hélicoptère Tigre qui a permis leur évacuation. Voilà ce qu'a fait Maxime Blasco qui, je le répète, allait fêter ses 35 ans. J'arrive pas à parler parce que j'en suis même moi-même beaucoup ému. Merci beaucoup à vous quatre. Merci Alexandre Devecchio, Christian Proutot, Xavier Iacovelli et Marie-Virginie Klein. Je rappelle que demain matin sur Europe 1, l'événement, c'est Éric Zemmour qui sera l'invité du grand rendez-vous avec Sonia Mabrouk. La soirée continue sur Europe.